Chapitre 38. La bibliothèque de Cornell était une forteresse de livres. Quatre fauteuils dépareillés, aussi beaux les uns que les autres, délimitaient un espace circulaire au centre de la pièce. Chacun disposait de sa petite table, des meubles anciens de diverses périodes, sur lesquels étaient posées des lampes vitrailles qui plongeaient la pièce dans une atmosphère douce aux couleurs rouge et or. Cornell avait voulu reconstituer là ce qu'il imaginait être le paradis, tout en espérant secrètement ne pas se retrouver seul au paradis, ne plus effrayer ses semblables, être capable de leur parler. Il n'était plus seul à présent et voyait cette nouvelle situation comme un test lui permettant de savoir s'il était prêt pour l'au-delà. Les deux chiens étaient couchés sur le tapis, la queue entre les jambes. L'un d'eux ronflait. Cornell s'était habitué à ces chiens plus vite qu'il ne l'aurait imaginé, d'autant qu'il n'avait aucune raison de converser avec eux. Il avait pris place dans une bergère, en face du petit garçon perdu dans un énorme fauteuil club. Il avait le sentiment d'être un ptérodactyle perché sur un fil électrique, les jambes allongées sur des ottomanes, des plateaux fixés aux bras de leurs sièges respectifs, ils mangeaient l'un en face de l'autre.
Les sandwichs sont très bons, dit le petit garçon.
Cornell, ne sachant quoi répondre, se contenta de décrire la préparation des sandwichs.
Du pain avec du beurre, deux tranches de saucisson, une tranche de fromage fondu et une tranche de provolone, des tomates émincées, un peu de mayonnaise, on appuie sur le tout avant de le toaster, avec en plus deux cornichons chacun et un petit paquet de chips.
Le cola, c'est bon avec les sandwichs, approuva l'enfant.
Cornell, aidé par sa mémoire photographique, aurait pu lui dresser la liste des ingrédients tels qu'elle figurait sur la canette. Mais il se contenta de l'information la plus intéressante.
Conditionné avec l'autorisation de The Coca-Cola Company, Atlanta, Géorgie, 30-31-3.
Je ne suis jamais allée à Atlanta, remarqua Travis.
Moi non plus. On devrait y aller tous les deux un jour. Non, c'est bien trop effrayant.
Pourquoi tu trouves ça effrayant?
Parce que c'est trop loin et trop grand, répondit Cornell.
J'imagine que c'est vrai, si tu le dis.
Cornell avait plus de facilité à converser avec cet enfant qu'avec quiconque auparavant.
Tu es le cousin d'oncle Gavin, déclara Travis après un silence.
Ma mère, Shamira, était la sœur de sa mère, mais sa famille l'a reniée quand elle avait 16 ans avant ma naissance, si bien que personne n'était au courant de mon existence.
Comment peut-on renier quelqu'un?
On le met dehors, on ferme la porte et on ne le voit plus jamais.
Waouh, c'est dur.
Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ma mère se droguait et se prostituait.
C'est quoi se prostituer?
Elle vendait son corps. Mais tu n'as jamais entendu parler de ça? Tu n'as jamais entendu parler de ça? Jamais. Elle faisait l'amour pour de l'argent.
Le sujet était délicat et Cornell transpirait à grosses gouttes.
On fait l'amour pour fabriquer des bébés?
Ta mère a fabriqué des bébés? Uniquement moi. J'étais bébé autrefois.
Mais alors, qui est ton papa?
Personne ne sait. C'est un grand mystère.
Ta maman ne se souvient pas? Tu devrais lui poser la question.
Ma mère est morte quand j'avais 18 ans.
Le petit garçon reposa son sandwich.
C'est très triste.
C'était il y a longtemps. Mange ton sandwich. Elle est morte d'une overdose de drogue. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Il faut manger. On ne peut pas s'en empêcher.
Travis contempla longuement son sandwich avant de réagir.
C'est pas juste que les gens doivent mourir.
Non, ce n'est pas juste. Pas juste.
mais c'est ainsi et il faut manger.
Mais alors, si personne n'était au courant de ton existence dans ta famille, comment oncle Gavin pouvait être au courant?
Quand je suis devenue riche, j'ai engagé un enquêteur privé pour retrouver ma famille. Gavin est le seul dont j'ai pensé qu'il me plairait. Et c'est le cas, je l'aime beaucoup, je l'aimais beaucoup, c'est le seul que j'ai contacté. Sans doute est-ce la raison pour laquelle tu es en sécurité ici, tu es encore en sécurité ici, tu es en sécurité.
Je me sens plutôt en sécurité.
C'est bien, tant mieux. À présent, mange ton sandwich, s'il te plaît, et merci.
Le petit garçon mordit dans le pain, mastiqua longtemps la bouchée et l'avala.
Tu es très riche?
J'ai à peu près 300 millions.
Waouh! Je sais même pas compter jusque-là.
C'est effrayant,
acquiesça Cornel, qui faillit reposer son sandwich à l'idée de posséder une somme aussi vertigineuse. Conscient de devoir montrer le bon exemple, il s'obligea à continuer à manger.
Comment tu as fait pour gagner autant d'argent?
J'ai inventé des applis très populaires.
Des applis? J'en ai entendu parler, mais je sais pas ce que c'est.
Tu sauras un jour. Quoi qu'il en soit, j'avais gagné tellement d'argent quand j'ai eu 24 ans que ça m'a fichu une trouille bleue.
Pourquoi tu aurais la trouille de l'argent?
J'ai commencé avec 10 dollars. 4 ans plus tard, après avoir versé des impôts, j'avais 300 millions. Ça n'arrive jamais, sauf que notre civilisation est un râteau de cartes.
Un quoi?
Je te prie de m'excuser, s'il te plaît, et merci. Parfois, ce n'est pas le bon mot qui sort. Je voulais dire comme un château de cartes. Notre civilisation est un château de cartes. Alors, j'ai décidé d'être prêt pour le jour de l'Apocagédon.
Alors, tu as construit cette bibliothèque secrète de la fin du monde.
Et un bunker qui est plus secret encore. Tu me prends pour un fou?
Non, t'es pas fou. T'es même très intelligent.
Cornel se rengorgea.
Je n'y serais jamais arrivé sans l'aide de tous ces ouvriers philippins qui ne parlaient pas un mot d'anglais.